mémoire d'un Parisien sous l'occupation cégétiste. C'est jeudi. Comme chaque jour, je me suis levé tôt. Et oui, je fais partie de la France qui se lève tôt. J'arrive à la gare SNCF de Villiers-sur-Marne, hier, comme des millions de Français, de Parisiens. J'ai fait la queue devant le panneau d'affichage de la gare Rosa Parks. Après plusieurs heures d'attente, j'ai pu accéder à mon tour à cette affiche de 21 cm de large pour 29,7 de haut, sur laquelle on trouve les milliers d'heures de passage des RER dans chaque gare. Imprimé en caractère Times New Roman taille 2. Le RER E de 6h34 au départ de la gare de Villiers-sur-Marne est bien inscrit. Et oui, il faut dire que depuis plusieurs semaines, nous sommes en guerre. C'est l'occupation. L'armée cégétiste a profité d'une faille dans la sécurité de notre pays pour entrer dans la capitale. Sans trop d'innovation et de stratégie militaire avant-gardiste, les cégétistes ont pénétré les Parisiens comme Ulysse les Troyens. Cachés dans des estafettes blanches, bariolées de rouge et de faucilles, derrière de gros barbecues géants, faisant rôtir des merguez frites, brandissant des drapeaux rouges, hurlant des slogans péremptoires dans des crachoirs électriques, ils se sont fait passer pour une manif hostile au changement d'horaire à la SNCF. Une manif, somme toute classique pour les cégétistes, que le Parisien connaît bien. Eh oui, il faut dire que le cégétiste est un révolté dans l'âme. Il manif quand ça change parce qu'il veut que ça ne change pas. Et il manif quand ça ne change pas parce qu'il veut que ça change. Le Parisien est habitué. Mais là, c'était plus fort. Les cégétistes ont profité de la manif pour investir Paris comme Ulysse III. Et c'est place de la République qu'ils ont posé leur estafette polluante, leur barbecue merguez odorante, leur drapeau criard, leur porte-voix électrisant et leur haut-parleur nasillard. Ils se sont alors découverts et présentés sous leur vrai jour. Les Nuits Debout. Un mouvement apolitique, comme ils aiment à se présenter, mais quand même vachement ultra à gauche et pas très tolérant pour celles et ceux qui ne partagent pas leur envie de tout casser façon grand soir. Bref, voilà donc plusieurs semaines que nous vivons sous l'occupation cégétiste. De grève en grève, de manif en manif, de caillassage en caillassage, de bris de vitrine en bris de vitrine, etc. Nous vivons au gré des trains supprimés, des horaires au bon vouloir des cégétistes, des stations de métro fermées, des cordons de CRS et des tracts jetés sur la chaussée. La pénurie commence à se faire sentir. Les files d'attente augmentent aux caisses des supermarchés. À coup sûr, nous aurons bientôt des tickets de rationnement. Il n'y a déjà plus de Choco Pops dans mon Simply Market. C'est dire si l'apocalypse est proche. Mais revenons à notre jeudi matin. J'arrive à la gare de Villiers-sur-Marne pour prendre mon RER E de 6h34. En arrivant, je regarde le prompteur. Mon train n'apparaît pas dans la liste. Eh oui, la Ligue cégétiste mouvance révolutionnaire a frappé dans la nuit. Malgré le 6h34 affiché en taille de caractère 2 sur l'affiche officielle de la SNCF, les militants du jusqu'au boutisme intégral ont vraisemblablement capturé le mécano, fou à leurs yeux, qui avait accepté de conduire le train de 6h34. Le RER E de 6h34 ne sifflera pas trois fois. Je devrais prendre le suivant. Quand ? Personne ne le sait. Les affichages en gare sont devenus très erratiques depuis l'invasion. J'attends sur le quai un hypothétique train qui aurait réussi à braver la surveillance des cégétistes hystériques. Après environ 4 heures d'attente, un train se profile à l'horizon. Quelle est sa destination? Personne ne le sait. Le panneau d'affichage en gare indique Bernichoux-le-Haut. Oui, le panneau d'affichage en gare, c'est le nom officiel donné par la SNCF à la télé qui affiche un fond bleu et des messages écrits en blanc pour donner la destination des trains. Et en bas de l'écran, un bandeau orange quand ça va bien et rouge quand ça va pas. Autant dire qu'il est souvent rouge depuis l'occupation. Et il est écrit dans ce bandeau rouge « En raison d'un mouvement social, vos trains peuvent être retardés ou supprimés. Veuillez consulter les affiches en gare pour connaître les trains qui circulent. » Vous savez, l'affiche en gare, c'est celle qui indiquait mon 6h34. Capici ? Le train s'arrête à quai. Peu importe sa destination, de toute façon, à coup sûr, il ira ailleurs. Les portes s'ouvrent, et une marée humaine se déverse sur le quai. Eh oui, un seul train depuis plusieurs heures, ça fait un grand nombre de voyageurs à transporter. Ces pauvres usagers des transports en commun étaient contenus dans le wagon grâce aux portes, mais en ouvrant les pauvres sont poussés vers l'extérieur. C'est un peu comme un coca que vous agitez avant d'ouvrir. Pfft ! La pression à l'intérieur est telle que le coca est expulsé quand on l'ouvre. Bon, il va falloir rebourrer tout le monde dans le train et en plus faire entrer ceux qui attendent à Villiers-sur-Marne, dont je fais partie. Heureusement, un consultant Capgemini qui a fait Sciences Po Elena était de la partie. Eh oui, il se rendait à son travail sans sa voiture depuis que le blocage des raffineries a totalement vidé les stations-service. Il prend les choses en main en grand humaniste du service public. Mesdames, messieurs, nous sommes environ 3847 à devoir entrer dans cette voiture prévue pour 250 personnes maximum. Il nous faut donc concevoir une autre façon de voir les choses. Heureusement, j'ai été formé à l'école de la République pour optimiser la ressource et la dépense des services de l'État. J'ai fait une matrice SWOT, estimer la charge, concentrer le pitch et graffer sur ce whiteboard le draft de notre organisation. La solution est évidente. Debout, nous n'occupons pas tout l'espace. Nous allons nous allonger, faire des couches jusqu'au plafond de la voiture. Mesdames et messieurs les plus forts se mettront tout en bas, et plus les couches monteront, plus les hommes et les femmes les plus légers entreront. Ah oui, aussi, d'une couche à l'autre. Les femmes à forte poitrine se mettront tête bêche pour occuper un minimum d'espace. Un peu comme au Tetris, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Ainsi l'espace sera optimisé et nous pourrons tous entrer dans la voiture. Bon, vu ma taille, j'allais me retrouver tout en haut de l'empilement humain. Mis à part le fait que j'allais respirer les toiles d'araignée du plafond, je ne m'en sentais pas trop mal. Mais j'ai quand même fait cette remarque à notre consultant Capgemini. Dites, sans vouloir paraître un brin tatillon, vous ne pensez pas que celui qui se trouve tout en dessous risque de suffoquer ? Il me regarde d'un air interloqué et me rétorque. Mais pas du tout. Regardez le Gant et le QQOQCP. Ils sont sans appel. Je l'ai appris à l'ENA et approuvé dans mon stage chez Nestlé. Alors vous voyez, moi, lui, pour optimiser l'empilement des boîtes de conserve. Mais vous devez avoir raison, puisque vous avez fait l'ENA, et moi pas. Allons-y. Et voilà comment 3847 usagers du RER E sont entrés dans une seule voiture. Faut reconnaître qu'il était pas bête, notre consultant Capgemini. Car, rangé de la sorte, quand les portes se sont ouvertes à Val-de-Fontenay, personne n'a été expulsé vers l'extérieur. Bon, on a bien entendu quelques gémissements du type « Oh, je suis écrasé, je veux sortir !» Par contre, aucun voyageur de Val-de-Fontenay n'a pu entrer dans la voiture et avoir leurs yeux ahuris. Je ne suis pas certain qu'ils aient eu envie de partager notre vision de l'optimisation du service public ferroviaire. Bref, notre train qui aurait dû aller jusqu'à Haussmann-Saint-Lazare s'est finalement arrêté à Magenta. Bah oui, avec le retard qu'il avait pris à Villiers. Et tout au long de son parcours, il n'allait quand même pas aller jusqu'à sa destination. Nos révolutionnaires cégétistes ont envahi le centre de contrôle de la SNCF et ont obligé notre train à stopper sa route à Magenta. Les portes s'ouvrent. Le rang du haut s'échappe de la voiture comme il peut. Je saute sur le quai et marche vers les escalators. Je me retourne et regarde par-dessus mon épaule. Quelques personnes sortent de la voiture, mais toutes les autres ne bougent plus. Pendant ce temps, les haut-parleurs de la gare annoncent un arrêt total du trafic sur le RER E à cause d'un malaise voyageur. Le programme d'optimisation du remplissage des voitures par le consultant Capgemini pourrait-il avoir un lien avec cet effet collatéral? Ça m'étonnerait beaucoup. Il a fait l'ENA tout de même. Et puis, son ROI nous le prouvera. Je devais prendre le métro ligne 5, mais depuis l'invasion, la ligne est stoppée. Trop dangereux pour les usagers du métro, depuis que les cégétistes ont envahi la place. Bref, je remonte en surface et rejoins à pied mon bureau. Il n'y a plus d'autres moyens de transport depuis que les cégétistes ont pris en otage les trams, les bus et les métros de la RATP. J'en ai pour plusieurs heures de marche, mais je n'ai pas d'autre solution. Nous sommes sous l'occupation, ne l'oublions pas. À peine sorti de la gare du Nord, je tombe sur un groupe de manifestants. Ils sont 258 000 selon leur propre décompte et 12 selon les trois policiers présents sur place pour les contenir. Le plus grand hurle dans son porte-voix « Salaud de gouvernement! Salaud de patron !» Je m'approche du porte-drapeau et lui demande « C'est quoi vos revendications du jour ?» Oui, depuis l'invasion, il nous faut nous renseigner sur les motifs du jour, car de ces motifs dépend l'itinéraire à prendre. Il me répond « Vous voulez le vrai ou celui pour les journalistes ?» Moi. Le vrai, évidemment, le coup de la loi travail, c'est bon, hein, plus personne n'y croit. C'est un secret totalement éventé. Il me répond. Hier, des CFDTistes ont réussi à reprendre le 19e arrondissement. Alors on va charger par Belleville, avec la coalition FO et même un peu de sudiste gauchiste, en vilipendant la loi travail, bien sûr. Enfin, ça ne m'arrange pas. Je vais devoir passer par la place d'Italie. Ça va me rallonger. Le plus grand continue de cracher dans son porte-voix nasillard. La loi travail ne passera pas. On aura sa peau, salaud de gouvernement. J'ose un... Dites, le gouvernement a fait un pas en avant hier, non? Vous ne pensez pas que... Il m'interrompt. Quoi? Vous êtes pro-gouvernement? Avec son regard lubrique et son teint rougeâtre, pigmenté au tanin de Léon Milo. Moi. Oh non, ce salaud gouvernement, dis-je. C'était juste que... Enfin, je me disais, puisque le gouv, enfin, ils ont retiré l'article, il m'interrompt. C'est bon, De toute façon, nous, on s'en fout. On l'a même pas lu, la loi travail. On n'est pas d'accord, et puis c'est tout. Ok. T'as compris ? Nous, on veut juste se foutre sur la gueule avec ces salauds de traîtres de CFDTistes. Allez, dégage avant que je te dénonce aux camarades. Je file. Car une dénonciation aux camarades, ça veut dire qu'ils te chopent à plusieurs, qu'ils te font monter de force dans l'estafette, et tu te retrouves ligoté avec un casque sur les oreilles qui te débite l'anthologie des discours d'Arlette Laguiller. J'ai un collègue qui s'est fait choper la semaine dernière. Il fanfaronnait en disant que personne ne pourrait lui enlever ses idées très à la droite de la droite. Mais pas jusqu'à Le Pen quand même, hein, c'est trop sale. Très libéral, bien protégé qu'il était par son adhésion au fan club de Bruno Le Maire. Eh ben le mec, aujourd'hui, il arrive au bureau en jogging, sandales ajourées Mephisto, Bob Ricard, un drapeau rouge marteau faucille dans une main, et un porte-voix dans l'autre. « On me spolie les crottes bouchées des patrons !» qui hurle en boucle dans son porte-voix, le regard perdu comme s'il cherchait des araignées au plafond. Fiou, ça fout la trouille. La radicalisation des djihadistes à côté, c'est le monde des bisounours. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois rejoindre mon bureau. Je remonte la rue Daumesnil. Je croise un groupe de manifestants cégétistes, fortement encadrés par 4 policiers de la BAC. « Salaud de gouvernement, on aura ta peau !» scande le porte-voix accompagné par un immense haut-parleur qui diffuse l'international en tectronique remixé par David Guetta. Et oui, personne ne sait à ce jour si le DJ s'est fait choper par les cégétistes dans l'estafette ou bien s'il inaugure le mouvement de collaborationnistes avec l'envahisseur. L'histoire nous le dira. Toujours est-il que son dernier titre, Beyoncé Loves Butcher Hooks, fait un carton sur Radio CC. Radio CC, c'est la seule radio qu'il nous reste depuis l'occupation. Radio Coco, c'est la radio émancipatrice du peuple qui nous libère de la dictature du capital en nous diffusant une information vraie à travers la sage parole d'un grand philosophe. Chaque jour, un des 3 grands philosophes officiels est choisi et un de ses discours est retransmis 14 fois. Puis Jean-Luc Mélenchon le commente en expliquant que l'on peut aujourd'hui aller encore plus loin. Hier, c'était le discours d'André Lajoignit et avant-hier, celui de Robert Rue. Alors aujourd'hui, c'est celui de Georges Marchais. Bon. J'ai toujours pas compris pourquoi El Kabash pose ses questions et Georges Marchais répond à autre chose. Mais c'est sûrement parce que j'ai pas fait les mains. Bref, arrivé à l'angle de la rue Picpus, je suis interpellé par un Parisien qui me demande « Hey camarade, tu viens ce soir à Répu pour le débat citoyen ?» Moi, « Bah non, pourquoi ?» Lui, parce que c'est un thème hyper méga important pour notre avenir de peuple libre. On va voter pour ou contre la proposition méga intelligente d'un type totalement apolitique, mais vachement encarté à la fédération anarchiste, tu vois. Comme tout le monde se bat sur l'âge de la retraite, alors lui, il propose que chaque citoyen décide lui-même de la date à laquelle il souhaite partir en retraite. Et aussi, que chacun puisse décider du montant de la pension qu'il souhaite toucher. Moi, je vais vous laisser débattre, hein. Je ne suis pas certain de pouvoir faire avancer la proposition plus loin. Et j'ajoute, dis, ton pote, totalement apolitique, mais vachement à gauche quand même, il aurait pas fait l'ENA ? Il m'a regardé bizarrement. Forcément, il n'avait pas connaissance de mon aventure avec le consultant Capgemini. Après 5 heures de marche, je suis enfin arrivé au bureau. Enfin, pas tout à fait. Je suis arrivé devant le bureau. Eh oui, parce que les cégétistes étaient devant notre bâtiment. Si j'ai bien compris, le meneur qui s'est pulmonné dans le crachoir électrique, nous sommes des salauds de fonctionnaires aux ordres du salaud de gouvernement. Alors pour montrer leur détermination à renverser le monde, ils ont tout tagué le trottoir et la façade du bâtiment avec des messages super méga hostiles, genre « salaud de gouvernement » ou encore aussi « salaud de gouvernement ». Et comme ils sont cégétistes de chez Peugeot, c'est écrit avec de la peinture de voiture. Comme ça, ça coûtera bonbon à faire nettoyer. Et le bonbon sera payé avec l'argent de l'État. Donc, mon argent de contribuable. Ouais, salaud de gouvernement. Bon, vu les 80 000 cégétistes présents, ou 14 selon la police, et les 200 CRS, je comprends que je ne parviendrai jamais à rentrer dans le bâtiment. Puis de toute façon, je suis parti à 6h15 ce matin et il est déjà 18h. Je vais faire demi-tour. Avec un peu de chance, en faisant du stop, je rentrerai plus vite chez moi qu'en transport en commun qui ne circule plus. Ah non, j'ai oublié. Comme ils ont aussi bloqué les raffineries, il n'y a plus de voitures qui roulent. Bon, je vais marcher. Pareil que c'est bon pour la santé. En moi, je refaisais les comptes. 258 000 à Gare du Nord, 595 000 à Doménil et 80 000 à la Porte des Lilas. Ça fait 933 000 manifestants. Et 12 au Nord, 9 à Doménil et 14 au Lilas, donc 35 selon la police. 35 têtes de bois qui font chier 60 millions de Français. Comment une minorité peut-elle être aussi bruyante et bloquée dans une perspective passéiste de 1936, la majorité qui veut avancer? Ah ouais, j'oubliais. C'est pas parce qu'on bosse dans le service public qu'on est fonctionnaire. Moi, j'ai un contrat de travail de droit privé, comme le cégétiste de chez Peugeot.
Yeah.